Aujourd'hui, je vais vous apporter un message plein de bonnes nouvelles. Avec des temps qui courent, c'est bien d'avoir des informations, de bonnes nouvelles, l'évangile. Aussi, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà écouté. C'est vrai. Vous aurez une impression de déjà vu, de « Ah, j'ai déjà écouté ce message une énième fois. » Et c'est vrai, même en préparant ce message, je me suis dit « Mais pourquoi apporter un enseignement ou un partage dont on est sûr qu'il a déjà été apporté ?» Et merci Martine qui me dit « Avec l'âge, mais moi qui suis jeune, je vais faire un peu ce que un principe, c'est les profs qui le connaissent assez bien, ou même les parents, la répétition. » Un principe essentiel dans la pédagogie, la répétition. Il est important de répéter ce qui est le plus important. Par exemple, c'est bon de prendre du temps pour les loisirs, pour manger, pour rencontrer les autres. Mais c'est nécessaire de prendre du temps pour lire la Bible. Pour lire la Bible. Une répétition. Cela permet de mettre l'accent sur ce qui est important. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Dans la Bible, il y a un livre dans lequel il y a énormément de répétitions. J'en parlais à ma femme, je lui dis, ah, c'est vrai, quand tu lis les psaumes, il y a beaucoup de répétitions. On parle de la bonté de Dieu, des merveilles du Créateur, sa toute-puissance. Et c'est bien de s'en rappeler. Il y a une personne qui disait, l'effet de répétition ajouté à la variété de l'expression accentue les vérités présentées et les fait ressortir de façon plus claire et plus complète. L'effet de répétition ajouté à la variété de l'expression accentue les vérités présentées et les fait ressortir de façon plus claire et plus complète. Donc vous vous doutez bien que je vais parler je vais m'arrêter dans le livre des psaumes. Et je vais prendre un chapitre des psaumes que vous connaissez très bien. Et plus précisément, je vais m'arrêter sur une portion d'un psaume. Le psaume 139. Ça va, je vais m'écarter un petit peu. Pour moi, le livre des psaumes, c'est un peu comme un remède du cœur. Quand je vais mal, quand j'ai quelques doutes, relire un bon psaume, ça fait du bien. Ça apaise, ça rassure, ça me ramène quelque part à l'essentiel. Je vais vous résumer assez rapidement le psaume, comment il est composé. Du verset 1 au 6, on parle de l'omniscience de Dieu. Il connaît tout de nous, comme disait Christie dans sa prière, même le nombre de cheveux qui comprennent notre tête. Et cela n'empêche pas de nous aimer. C'est bien de se rappeler ça, que Dieu nous aime. Il est avec nous dans chaque situation. Dans chaque épreuve. Du verset 7 et 12, il part de l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent. Il est partout à tout moment. Il est donc impossible de fuir son esprit. Je sais pas, est-ce que ça vous rassure ou ça vous inquiète? On ne peut se séparer de sa présence. Versets 13 à 18, David nous parle de la souveraineté de Dieu, de son omnipotence. On y reviendra par la suite. Et à la fin de ce chapitre, David a l'appel à la justice de Dieu. C'est un cri de colère à l'égard de ceux que David appelle ses ennemis. Il implore la justice de Dieu. Aussi, il appelle Dieu à examiner son âme et à lui montrer ses mauvaises motivations éventuelles. Ça peut tomber bien, ça tombe bien aussi un peu avec la situation actuelle. On peut en vouloir à l'autre, à celui que l'on qualifiera de notre ennemi ou de notre agresseur, et vouloir nuire à sa vie. Dieu sent de mon âme. Est-ce que mes motivations sont saines ou pas? Est-ce que je suis en train de me diriger dans une mauvaise voie? On va faire un petit point, une petite pause. Je vais vous parler d'autre chose, d'informatique. C'est vrai, il n'y a pas trop de transition, c'est pas tellement clair. Je vais vous parler d'avatar en informatique. Un avatar est un personnage virtuel que l'utilisateur d'un ordinateur choisit pour se représenter graphiquement. Dans un jeu, dans un lieu de rencontre virtuelle. En d'autres termes, un avatar, c'est une image virtuelle de nous ou comment on se perçoit virtuellement, une projection de ce que l'on voit de nous. Et moi, je me rappelle à une époque, j'étais très très joueur, j'étais très gamer, je jouais énormément, mais beaucoup beaucoup. Et j'ai créé un avatar sur Xbox. On voit un peu moins si on éteint un peu les lumières. C'était mon avatar à moi. Et c'était un peu la représentation que je m'étais faite de ma personne, de comment je me voyais. Et les autres joueurs, quand ils me voyaient, il y a 8 ou 7 ans. Donc, il y avait déjà les poignées d'amour, elles étaient présentes. Donc, j'étais déjà un peu juste quelque part. Mais c'était l'image que je renvoyais. Et en préparant ce message, je suis allé rechercher dans mes anciens dossiers et j'ai retrouvé ça sur ma Xbox. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai que... C'est l'image que j'avais de moi. J'étais jeune, j'ai l'excuse de la jeunesse. C'est mon moi virtuel. Comme je disais tantôt, l'avatar va être une description, une projection physique de l'image que je veux montrer à mes contemporains. Je vais parler d'autre chose, du selfie, que l'on connaît un peu tous. Merci aux Québécois, ils nous avaient appelé ça l'égo-portrait ou l'auto-portrait. Et donc l'égo-portrait est un autoportrait photographique pris dans un contexte social, festif ou touristique, avec son smartphone, tenu à bout de bras ou fixé à une perche. En d'autres termes, c'est la mise en scène de soi, de soi-même. Et sur certaines applications, je me suis dit, il y a la possibilité de rajouter des filtres. Je me suis sacrifié quand même pour ce message. J'ai utilisé un filtre, je me suis dit, bon, il y a moi à gauche, donc normal, avec mon gras du visage, mes aspérités surfaciques. Il y a moi à côté, après le filtre, j'ai le visage un peu plus affiné, moins de petites joues, le visage lisse, le filtre on en voit de partout sur les réseaux sociaux. Le filtre, c'est aussi, en d'autres termes, c'est un peu... C'est correspond aussi quelque part à porter un masque. Parce qu'on doit paraître. On doit se montrer sur notre meilleur visage. où on doit passer une information à l'autre. Il faut cacher nos imperfections, car l'on se déprécie. Poster ces photos, ces égoportraits, n'est plus simplement un moyen de partager un moment de vie. Ces autoportraits apparaissent comme un outil pour booster l'ego et l'estime de soi, ou pour cacher ce que l'on n'accepte pas en nous, parce qu'on a certains complexes, parce qu'on a une baisse d'estime de soi. Le selfie renvoie à une représentation de soi qui correspond aussi, dans certains cas, à la norme, aux dictats et aux attentes de la communauté d'appartenance. Dans nos relations, dans notre vie au travail, dans les lieux où on fait du sport, on veut appartenir au groupe. Et pour appartenir au groupe, faut ressembler au groupe. Et après, on va ressembler au groupe physiquement, faut adopter la mentalité du groupe. Et après, faut devenir comme le groupe a défini comment on doit être. Quand c'est positif, tant mieux. Mais quand c'est négatif, on se convainc que ce que le groupe a défini de moi est moi. Quel est le point commun entre ces éléments, entre l'avatar, l'égoportrait ou l'autoportrait, avec ajout de filtre? Ces démons parlent de l'image. Je disais tantôt que l'image est le prolongement ou la traduction de la perception de soi, de ce que l'on renvoie, de ce que l'on dit visuellement. Et c'est pas que physique, c'est aussi psychique, dans la tête, on va adopter certains discours qui vont être aussi une image quelque part pour montrer aux gens voici comment je suis. Où on va être enfermé parce que c'est l'image qui m'a été accolée de quelqu'un de timide, de réservé, de quelqu'un de pas sûr de soi, de quelqu'un de pas ambitieux ou autre. Et aussi par l'image, on cherche l'approbation dans le regard de nos contemporains. Comme disait, l'autre nous définit dans quelle case on doit être. Cette image visible par l'autre est construite soit par ce que je pense de moi ou parce que l'autre pense de moi. Revenons à notre psaume. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. On va s'arrêter sur cette phrase que j'ai mis en gras, au cas où vous ne la verrez pas. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand on a lu les psaumes, et quand on lit ce passage, on peut l'interpréter de différentes manières. C'est l'approprier au final. On peut se dire, Seigneur, je suis une créature merveilleuse, et s'arrêter là. Excusez-moi, je vais pas m'excuser de cela, quoi. Je suis une créature merveilleuse. On peut s'enorgueillir. On peut le prendre comme un... comme un... se sentir au-dessus. Je suis une créature merveilleuse. Et tout le reste du texte, c'était écrit en petit. Et puis ça me plaisait pas plus que ça. Peut penser un peu aux pharisiens qui connaissaient le texte, qui connaissaient les psaumes, et qui n'hésitaient pas à se sentir au-dessus de la peuplade, de la plèbe. Donc on peut lire la Bible, on peut lire des passages et les utiliser à notre propre dessein. Il y a un très bon film qui en parle, c'est le livre d'Élie. Pour faire court, c'est des individus. Il y en a un qui a étudié la Bible par cœur et qui essaie de la retranscrire. Et il y a un autre qui cherche à tout prix la Bible parce qu'il dit dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour manipuler les masses. Il y en a un qui le cherche uniquement pour ça, parce qu'il y a tous les arguments qu'il faut pour manipuler les masses. Ce film est très intéressant et ça permet d'avoir un peu ces deux approches. Revenons à notre texte. Donc je disais, cela peut se... Donc cet orgueil-là, je suis une créature merveilleuse, oubliez le reste du texte. Cela peut aussi se traduire par je suis ici, ben c'est grâce à moi, mon coco. Par mes propres efforts. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ne nous abandonnons pas à l'orgueil. Rappelons-nous que seul Dieu est souverain. En début de message, je vous ai dit, je vous apportais de bonnes nouvelles. Et là, on parle de pharisiens, on parle d'orgueil. Alors, on va pas s'arrêter là, on va passer à autre chose. Je vais partir sur des notes positives. Dans ce texte, dans cette portion de texte, David me rappelle, ou nous rappelle, que Dieu est mon créateur, est notre créateur, et que Dieu est créateur de toutes choses. Il est créateur de chaque passerelle de ma personne. Ça fait penser un peu à l'artisan ou l'horloger qui est là sur sa montre, qui connaît chaque pièce de sa montre, comment elles sont montées, comment elle va fonctionner. Ou un peu comme le sculpteur, il y a Martine qui fait beaucoup de dessins. C'est chaque coup de pinceau, chaque coup de crayon. Je sais ce que je fais, je maîtrise chaque coup de crayon. Je sais où je vais l'emmener. Dieu m'a sculpté, m'a façonné. Ça, on peut le lire dans la Genèse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela a été très bon. La création et l'homme. Non seulement Dieu est maître du début de mon histoire, mais encore de sa fin. Je ne mourrai pas un jour plus tôt ou plus tard que le jour fixé par Dieu, car il est souverain. Je dois être capable de réaliser que Dieu a un projet pour moi, pour chacun de nous. Je dois réaliser, pour venir un peu faire le lien avec l'égo-portrait, le selfie, que ma vie n'est pas régie à des schémas déterministes. Parce qu'on m'a dit au commencement, ta vie sera comme ça et tu finiras comme ça. Je me le mets tellement dans ma tête et je finis par devenir ce que l'on a défini de moi. La communauté dans laquelle je vis a dit que je fonctionnais d'une certaine manière. Alors je vais mettre ce filtre qui va qui va me resculpter, qui va me refaçonner. On peut prendre un exemple dans la Bible. David. David, dans le schéma de l'époque, c'était le moins jeune de sa famille. Techniquement, l'héritage, il pourra attendre. David, dans le schéma de l'époque, il était fait pour être berger, garder ses moutons. Il y a de fortes chances qu'à, lorsqu'il allait faire son quota de points retraite, il serait berger, il était censé être berger, du début à la fin. Ce qu'on appelle les schémas déterministes. Mais Dieu avait un projet de lui, pour lui. Il nous montre que ces schémas déterministes n'existent pas. Si on reste encore à David, si on regarde un peu son histoire, on se rappelle que David était capable de chasser des ours à coups de frambre. Donc il s'est exercé. Dieu a permis cela. Il a pu saisir chaque message. Il a pu saisir chaque occasion pour accomplir le projet de Dieu. Donc quand il se retrouve face à un colosse, quand tu as très bien manié pendant des années et des années la fronde, je pense que tu commences à être précis. Tu maîtrises justesse, puissance et précision. On peut aussi prendre le cas de Moïse. Dans un schéma déterministe, Moïse était censé mourir. Le pharaon avait décidé. C'était acté, il était censé mourir. Mais Dieu en a fait autrement. On doit apprendre à saisir ce que Dieu met sur notre chemin. Nos schémas déterministes ou nos contextes du contemporain ne nous définissent pas. Dieu m'a fait à son image. Au-delà de toute logique génétique, au-delà de tout handicap de naissance ou acquis, je le reflète et il a sa main sur moi. Plus encore, avec ma conversion, ce corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu a un projet pour moi et pour chacun de nous. Me voilà avec cet autre filtre. Ce nouveau masque, cette nouvelle identité façonnée par les mots durs des uns et des autres. Parce qu'en m'a répétant en boucle, je ne suis bon à rien. Je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas au niveau. Je suis incapable. Je suis vil, je suis hypocrite, je suis malhonnête. Je suis faible. Alors j'ai fait de cela mon masque. Alors, Je deviens ce que les gens ont dit que je deviens. Et je me le suis convaincu. Au point d'oublier que je t'ai fait à l'image de Dieu. Qu'il m'aime. Et que je suis une créature merveilleuse à ses yeux. Cette phrase écrite en gros, en quelques mots, je l'ai effacée. Ne te déprécie pas car tu es la fille, le fils du Créateur. Je vais vous citer un petit passage. Matthieu 5, verset 39. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. En préparant ce message, donc je lisais plein d'articles, des commentaires, et je suis tombé sur un commentaire que je trouvais assez intéressant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et ce commentateur disait, ce qui est intéressant, c'est à l'époque, si une personne te gifle sur la joue droite, si tu te mets face à une personne et t'es droitier, ça reviendrait à le gifler du revers de la main. Et à une certaine époque, frapper une personne du revers de la main revenait à le mépriser. C'est un signe de mépris. Je te prends de haut. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Ne me méprise pas. Si tu veux me frapper, frappe-moi, mais ne me méprise pas. Tends l'autre joue. Ne te déprécie pas, car tu es la fille et le fils du Créateur. Pour conclure, comment vivre avec cette souveraineté de Dieu, avec toutes ces informations? En me réjouissant de ce projet bienveillant de Dieu, si mes parents ne m'ont pas vraiment voulu, si la société ne m'a pas vraiment voulu, Dieu, lui, m'a voulu. Je peux me réfugier en Dieu, en son amour pour moi, dans sa compréhension de ce que je suis, car je ne suis pas le fruit du hasard. Je peux vivre cela en ayant confiance. La vie en général et la vie chrétienne en particulier, n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des combats, des épreuves, des tentations et des chutes. Mais Dieu reste souverain. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. J'ai une bonne nouvelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors, j'entends, c'est très timide ça. C'est pas une bonne nouvelle ça? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, et pour que le monde soit sauvé par lui. Je pense que chaque matin, on doit se relever et se dire, oh, Dieu m'aime. Non, mais on se rend compte non, que le Créateur de toutes choses m'aime. Le Créateur de l'univers s'arrête sur ma petite personne, qu'il envoie son Fils souffrir, mourir sur le gibet. Pour ma petite personne. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas encourageant? Et de relever la tête, pas pour s'enorgueillir, non, se relever la tête, pour entrer, pour saisir son projet, pour rentrer dans son projet, pour communier avec lui. Par la conversion, j'entre dans le projet de Dieu. Je me libère de ma condition humaine, des diktats et des injonctions du monde. Mon Dieu m'aime. Quotidiennement, je dois me rappeler que je suis le fils, je suis la fille du Créateur. Et ce verset me le rappelle. Qu'il m'aime. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je pense que demain matin, début de semaine, waouh, c'est bien de se le rappeler. Je pense qu'on ne se le rappelle pas souvent. Et on se lève le matin avec le poids de la vie, de la société. On arrive à oublier que je suis une créature merveilleuse, que Dieu m'a fait à son image, qu'il m'aime. Juste pour ça, je dois dire, Bon, Seigneur, tu m'aimes. Et de plus, tu as dit que tu as porté les choses pour moi et tu as déjà porté. Ça doit faire du bien, ça, quand même. Ça doit faire du bien. Pendant que je vais rappeler l'équipe de louanges, pendant qu'ils vont s'installer, je vais vous lire les paroles d'un chant. On va faire, on va reprendre tel que je suis. Et je vais vous lire les paroles d'un chant. C'est... Non. Il est écrit par un Gaspard Bigangoy. C'est ça. Les paroles de ce chant sont très simples. Tellement simples qu'elles sont vraies. Et que je me dis, faudrait se les répéter, pas comme un mantra, pas comme un mantra au pouvoir mystique, magique, non. Mais juste comme une vérité, comme quelque chose de factuel. Il dit, et normalement vous êtes d'accord avec lui, mon père a créé l'univers. Mon père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Et ce, parce qu'il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Mon père connaît toutes mes souffrances. Mon père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Alors je cesse de pleurer. Je marche la tête haute. Je saisis la victoire. Mon père est devant moi. Mon père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Si tout lui appartient, alors je n'ai pas à avoir peur.